Voilà, vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel. Vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. Et ben, on passe au dossier de cette édition. Donc, avec Renaud, on va parler d'Afrique 21. Alors, avant de commencer, je voulais vous lire l'édito du numéro d'automne 2004, qui me paraît bien définir un peu la revue. On reviendra un peu. Tu me donneras ton commentaire, Renaud. Et donc c'était au moment de l'anniversaire, la commémoration du génocide rwandais. Après quelques lamentations à l'occasion du triste anniversaire du Rwanda, la majorité des journalistes a vite refermé la boîte de Pandore du génocide et s'est même fait l'écho des offensives révisionnistes sur le sujet. Et surtout, ils n'évoquent jamais la commission d'enquête citoyenne et ses révélations sur la responsabilité de l'État français. Jamais ils ne dénoncent les liens de soutien fraternel de ce dernier avec les dictatures africaines. Jamais ils n'expliquent que derrière la crise du Darfour se cachent les intérêts pétroliers. Jamais ils ne révèlent que Laurent Gbagbo, président dictateur de la Côte d'Ivoire, est toujours membre de l'International socialiste, même si François Hollande, chef du PS français, le dit infréquentable. On pourra revenir dessus. Pourtant, il y a tant à dire, tant à expliquer, tant à montrer. Y aurait-il une sélection en amont des informations diffusées? Trop de secrets à cacher? L'enjeu est-il de dissimuler qu'en Afrique aussi, il y a des luttes, des grèves, des syndicats? À moins qu'il faille laisser aux hommes politiques occidentaux l'exclusivité de l'antiracisme et de la lutte contre l'apartheid, et éviter ainsi de mentionner ceux qui, dès le début du siècle, ont préféré et préfèrent encore parler de lutte des classes plutôt que de combat des races, de solidarité des travailleurs plutôt que de bruit et d'odeur. Le silence est une arme, il enfante l'ignorance et sa fille l'indifférence. Alors considérez que ces pages sont des cris, des hurlements d'espoir venus de ce continent qu'on nous vend moribond et exsangue, des mots contre le chantage à la fatalité, pour offrir aux millions d'Africains en lutte pour leurs droits et leurs libertés, ainsi qu'à tous leurs camarades des cinq continents un espace d'expression. Certains disent justement « Ne hais pas les médias, deviens les médias. Tel est notre pari, nous ferons tout pour le réussir. » Et donc voilà, ça c'est l'édito de 2004, et ben on va poursuivre exactement ça, « Ne hais pas les médias, deviens les médias. » Et ben on en parle avec toi sur l'antenne de FPP. Donc est-ce que tu peux nous présenter cette revue? Là je pense que l'édito dit clairement, annonce la couleur. Est-ce que tu peux donc dire un peu quand la revue est née, pourquoi elle est née, et qui fait partie de cette revue?
Bonjour, donc effectivement, cette revue qui a à peu près 3 ans d'existence, dans l'esprit en tout cas, a été créée à l'initiative de militants syndicaux et associatifs qui ont décidé, en fait, je pense effectivement l'éditorial le montre bien, de rompre avec la fatalité ambiante qui est commune quand on aborde la question de l'Afrique dans les médias, en France notamment, puisqu'on insiste aussi sur une spécificité française. Déjà rompre donc avec cette fatalité qui est maintes et maintes fois étalée à la surface des journaux. Bon, ça commence évidemment avec les images de gamins bedonnants, enfin bon, avec les mouches, quoi. Enfin, on va pas, faut pas caricaturer, mais c'est toujours un petit peu ça. La guerre, les ravages du sida, la famine, la sécheresse, enfin bon, il leur arrive tout plein de choses aux Africains, et finalement ils n'ont pas vraiment de bol, et c'est comme ça malheureusement, donc on peut à la limite les aider. C'est le message qui passe actuellement dans la majorité de nos médias, dans des formes beaucoup plus alambiquées, hein, pas directes comme ça, mais c'est malheureusement la grosse question qui se pose aujourd'hui dans les médias. Quel traitement des initiatives qu'ils peuvent avoir en Afrique, qui peuvent être dévastatrices, comme l'est par exemple un plan d'ajustement structurel comme le NEPAD, aussi bien que sur des luttes victorieuses de syndicalistes ou d'organisations de la société civile de base, comme on l'a vu au Niger c'est de l'année dernière, enfin bon voilà quoi, ou au Burkina avec la victoire sur le fabricant de cosmétiques Yves Rocher. Donc, créer des solidarités internationales aussi, c'est le deuxième but de notre revue. Permettre en fait l'expression des voix, des sans-voix, ceux que on nous prépare pas à entendre en fait. Donc sur toute une série de sujets qui peuvent aller de la santé à l'économie, en passant par les questions de développement, les questions des médias aussi évidemment, la question des femmes, la question des luttes sociales, etc., sur tous ces terrains-là, avec à l'intérieur un dossier de 8 pages qui se consacre à une activité importante du mouvement des droits sociaux, des droits économiques, des droits politiques en Afrique, Donc avec la tentative de donner quand même l'éventail des alternatives qui se proposent dans ces rassemblements. Pardon.
Est-ce que tu peux juste nous dire pourquoi ça s'appelle Afrique 21? La première fois qu'on a présenté cette revue, c'est Guillaume, je me rappelle très bien, il a dit Afrique XXI. et donc,
on nous a dit XXL aussi.
Voilà, donc pourquoi déjà... Oui, pourquoi Afrique 21?
Afrique, ça je crois que oui. Tout le monde a compris. Puis 21 comme 21e siècle, hein, tout simplement, parce que c'est vraiment dans les années, dans les années 2000, en fait, qu'il y a eu un changement, on va dire, dans certaines pratiques militantes. On peut dire que la donnée des relations France-africaines, qui a notamment été développée par l'association Survie, est vraiment rentrée dans les réflexions, les débats qu'il pouvait y avoir entre les relations françaises et Afrique. Et donc, c'est pour augurer peut-être de changements majeurs. Voilà.
Afrique 50, non, de Vautier, il me semble.
Oui.
Qui parlait de lutte, comme, enfin bon, je l'ai pas vu. Donc
personnellement, alors là, ça devient une colle parce que moi, j'étais pas à l'origine du nom. Donc,
d'accord. On va passer à une autre question. Par exemple, qui sont les membres fondateurs de la revue?
Alors, les membres fondateurs, en fait, sont issus d'associations ou de syndicats. Donc, à commencer par Erkrige, la CNT le Cofanzo, Miro, ACT UP et la DDL. Donc ça c'était il y a 2-3 ans, donc une série d'associations qui avaient plus ou moins d'implications dans des activités militantes du journal, parce que ça se limite pas effectivement à juste produire une revue, hein, mais j'y reviendrai peut-être. Ont décidé de s'associer donc dans la création de cette revue, en se disant on a tous des terrains d'action différents, on a tous des explications peut-être qui sont un peu différentes, mais qui convergent quand même sur un grand nombre de faits, et essayons de mettre en commun donc toutes ces initiatives, toutes ces alternatives qui peuvent être développées. Aussi bien sur des secteurs comme le SIDA avec ACT UP, que la question des droits politiques et civils avec la DDL, ou la question de la banalisation des génocides avec Erkrige. Donc, la question du syndicalisme avec la CNT. Donc, aujourd'hui, ça a évolué. C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres associations qui sont rentrées dans le collectif. D'ailleurs, le dernier en date présentera le prochain dossier sur le rail en Afrique. Il s'agit de Sudrail, qui est donc rentré dans la revue. Entre-temps, donc, il y a eu le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, dont je suis membre, et qui est donc s'est investi sur cette question-là. Survie par Île-de-France et d'autres. Se sont retrouvés et arrivent encore évidemment il y a tout un travail de comité éditorial, de secrétariat qui est assuré uniquement par des bénévoles, donc s'il y a des gens appellent aux bonnes volontés, à peine à toute contribution. Donc il y a effectivement des gens qui viennent vraiment d'horizons divers et variés, qui travaillent dans la revue dans l'esprit justement de casser la fatalité dont on a parlé au début, et de favoriser la mise en place de nouvelles solidarités ou d'initiatives.
Et c'est pas trop difficile d'arriver à fédérer justement tout ce monde-là qui est pas issu du même, qui a pas les mêmes, qui défend pas les mêmes intérêts. Les associations sont pas toutes sur le même terrain. Est-ce que c'est pas trop très difficile de réunir tout ce monde-là? Comment vous faites pour arriver à produire un média?
La base. On a un site internet avec un certain suivi, et il y a des gens qui s'occupent plus particulièrement de certains postes. Hein, il y a un secrétariat.
Sur le contenu des articles.
Mais sur le contenu, il y a une participation ouverte du comité éditorial, donc à tous les militants des associations membres. Et même c'est ouvert au-delà, dans une certaine mesure. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on perde trop de temps. Des fois, c'est des réunions qui peuvent durer très longtemps. Mais bon, donc on s'accorde sur le contenu éditorial du numéro, des numéros qui viennent, quoi. Hein, avec 2-3 numéros d'avance. On essaie de réfléchir à l'opportunité de pondre tel texte, d'avoir tel enfin, selon l'actualité. Donc on essaie de quand même de donner effectivement une dynamique au journal, mais tout le monde est intégré. C'est-à-dire que la recherche d'articles, il y a surtout une proposition et, qui est faite de la part de militants sur un sujet particulier. Qui renvoie la proposition et ça fait une contribution qui est gardée ou pas selon les thèmes qui ont été gardés en comité de rédaction.
Pourquoi la LCR, par exemple, ne fait pas partie de...
Alors, en fait, au début d'Afrique 21, il y avait une définition toute simple qui avait été donnée pour le journal, c'était rester indépendant dans son fonctionnement et financièrement de toute institution politique, économique et religieuse. Donc,
un journal de droite, quoi.
Un journal de droite. Avec une perspective quand même nettement antiraciste. Oui. Non, mais en fait, pourquoi ? Parce que tout simplement, je pense qu'au début, se posait la question de la participation d'organisations africaines. Et que bien souvent, il est très très. On s'avère que par exemple dans la crise ivoirienne, il y avait des très bons contacts qui étaient menés pendant un certain temps avec des partis d'opposition, des partis au pouvoir, avec un dialogue qui n'était pas un dialogue de sourds, qui était relativement, cordial et où il y avait des avancées quoi qui pouvaient se dessiner, mais les choses étant ce qu'elles sont, on est aussi amené à vraiment se poser, à mettre des jalons quoi, c'est-à-dire pour ces organisations politiques, à mon avis, de faire très attention sur comment elles évoluent. Et ça, c'est une question qui est très très déformée parce que bien souvent, on n'a que des contacts sporadiques et téléphoniques. Donc, mais ça, en France, par ailleurs, c'est aussi, je pense. La question du fait que le journal a été aussi créé aussi par des militants de la CNT qui sont fortement investis, donc qui ont préféré faire le choix d'une absence totale de parti politique, parce que dès lors, pourquoi la LCR, pourquoi pas Hello, pourquoi pas d'autres qui pourraient très bien s'insérer. Voilà.
C'est parce que la plupart des associations qui sont fondatrices ont un vrai projet politique révolutionnaire pour...
Disons que justement, on n'ambitionne pas de donner une perspective à ce niveau-là. Surtout, ce qu'on veut faire connaître, c'est qu'il y a des initiatives de lutte, il y a des choses qui sont nouvelles, qui sont expérimentées en Afrique, sur des terrains que nous, on connaît aussi au Nord. Il y a effectivement, peut-être au niveau encore aujourd'hui de la précarité, certains réflexes de défense qui fait que on n'est pas, on a malgré des situations qui sont totalement plus défavorables, on n'a pas une société éparpillée comme on peut l'avoir ici. Il y a plein de choses qui font que il y a des expériences là-bas qui nous prouvent que c'est juste une question de volonté, quoi. Donc ici, ce serait la même chose, ce serait d'autant plus facile à mettre en œuvre avec les moyens technologiques, quoi. Donc c'est vraiment pouvoir apporter un support à des paroles qui sont pas écoutées, mais qui sont très illustratives en fait de ce qui se passe actuellement sur tous les niveaux de la lutte sociale en Afrique. Alors surtout avec, quand même sur l'Afrique francophone, hein, il faut le reconnaître, même si on sait que d'autres font la même chose. Il y a un journal qui s'appelle Kilomo en anglais qui fait la même chose que nous sur le côté anglophone, voilà.
Et donc, c'est des assos françaises qui font partie du comité éditorial, mais en lisant le dernier numéro, on voit aussi que c'est largement ouvert, en fait, à des articles qui sont parus dans la presse africaine ou bien à des communiqués d'associations ou de syndicats africains. Donc, juste deux questions en une, quoi. Déjà, comment est-ce que vous travaillez avec eux, d'autre part, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas carrément des assos africaines qui font partie, en fait, du comité éditorial, tout simplement?
Ah mais il y a des associations africaines qui font partie du... Je vais citer le Miro, le Cofanzo, la DDL. Bon, c'était le Miro aussi. Donc, alors, je vais peut-être expliquer, par exemple, le collectif France Affaires Norbert Zongo. Voilà. C'est typique de ce qui se passe en Afrique au niveau médiatique, c'est que c'est un journaliste qui a été assassiné parce qu'il avait découvert des choses très compromettantes pour le pouvoir en place de M. Compaoré. Et donc il a été assassiné. Tout a été fait pour cacher en fait cet assassinat politique. Mais ça n'a pas marché parce qu'il y a vraiment eu un soulèvement, une grosse mobilisation qui font que la question de la justice est vraiment restée dans les mémoires. Et je voudrais souligner aussi le fait qu'au Burkina, on vient juste de classer l'affaire Sankara, c'est-à-dire qu'on peut dire maintenant qu'il a été assassiné, alors qu'alors, ce n'était pas le cas. Donc, alors bon, la question, c'était sur les associations, je ne vais pas m'étendre, mais sur les associations qui participent. Effectivement, il y a participation donc, d'associations africaines. Nous, c'est ce qu'on cherche. Nos articles, effectivement, c'est... alors, je ne pourrais pas dire dans le dernier numéro, mais grosso modo, c'est moitié qui viennent d'Afrique, moitié qui viennent de France. Ou de Belgique ou de Suisse, quoi, à la limite, quoi. Mais bon, voilà, c'est vraiment ça.
Il faut payer. Eu devo não nego, pago enquanto não der. Você só me deu 10, quer receber 100. Isso é conta que ninguém, isso é consciência faz. Pensando bem, até já paguei a mais. E se você quer saber, fica difícil dizer quem agora deve a quem. Devo e não nego, pago enquanto não der. Devo ir lhe visitar pra comer sua galinha. Devo lhe agradecer pela sua visitinha. E você deve se preparar pra deitado me esperar outra novidade minha. Devo e não nego, pago enquanto não der.
Devo e não nego, pago enquanto não der.
Je me paye pas ta tête, mais ami, écoute-moi. Il faudrait que tu me prêtes la somme que je te dois pour pouvoir payer ma dette avant que le terme échoue. Après, ce sera la fête à mon terme, mon restaurant. Ainda ontem era amigo, nem parece hoje em dia. Por causa do fato antigo, regulando micharia. Escuta o que eu lhe digo, veja se estou errado. Vamos esquecer o passado, que o futuro é que nos guia. Devo e não nego, pague enquanto não der. Ainda ontem era amigo, nem parece hoje em dia. Por causa de fato antigo, regulando micharia. Escuta o que eu lhe digo, veja se estou errado. Vamos esquecer o passado, que o futuro é que nos guia.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, vous écoutez Les Oreilles Loin du Front jusqu'à 20h30. Ce soir, on est en compagnie de Renaud et on parle de la revue Afrique 21, la revue des alternatives africaines. Pierre, vous voulez revenir sur cette présentation du journal?
Ouais, Renaud, tu parlais tout à l'heure de survie. Moi, j'ai eu l'impression qu'en fait, l'apparition de survie, et en particulier à travers François-Xavier Verschave, avait quand même pas mal modifié les termes du débat qu'on pouvait avoir ici, en France, en Occident, sur l'Afrique. Est-ce que finalement votre revue est la suite logique ou une des suites logiques du travail qui a été fait par survie au départ?
Oui, à un moment donné, effectivement, C'est lié au fait que des militants dont c'était pas le terrain, on va dire, se sont intéressés à la question par la bande, on va dire. Et ça veut dire que effectivement une association comme Survie qui existe depuis très longtemps, qui à la base n'était pas sur les relations franco-africaines, mais bon sur l'aide au développement, et qui a fait en analysant l'aide publique au développement la constatation que c'était vraiment de l'aide publique aux dictateurs finalement, notamment dans sa partie française. Alors il s'est avéré qu'il a tiré un fil, François-Xavier Versage, et c'est venu, et il a écrit La France-Afrique, Noir Silence, Noir Chirac, enfin tous ces livres qui ont été énormément lus et qui sont passés quand même dans le milieu militant, ça c'est sûr. Et effectivement, mais ça fait 10 ans, 15 ans que ça existe, quoi. Après, le fait que des militants syndicaux, des militants sur la question du sida, des militants sur la question de la démocratie, des militants, enfin, dans leur pays, mais c'est des gens de la diaspora, forcément, c'est ce qu'on se disait aussi, effectivement, nous, sur Paris, on a des contacts avec les gens de la diaspora. Les autres contacts, c'est les téléphones, mails. Ces associations, ces militants sont dit si on ne fait pas quelque chose, qu'on n'en parle pas à l'intérieur de nos structures d'activité, cette question va être diffusée mais jamais abordée en fait. Et donc en faisant ce journal, le but c'était déjà de montrer, de faire parler un petit peu les associations qui ont des choses extrêmement importantes à dire, notamment Survie, parce qu'il n'y a pas d'accès médias, bon, faut être lucide. Il n'y a pas d'accès très très facile. Les seuls moments où on peut rencontrer le public, c'est en faisant des conférences, des débats, des initiatives localement. Mais il n'y a pas moyen d'avoir un public, de toucher un public plus large. Donc déjà, on s'est dit, si dans le milieu militant, y avait plus de gens qui étaient au courant et qui l'intégraient à leur façon de militer, qui se disaient effectivement que quand on est militant, par exemple, dans un collectif de sans-papiers et qu'on fait le lien, par exemple, qu'il peut y avoir entre la dette, la question de l'endettement des pays du Sud, la question des dictateurs, de l'aide publique au développement qui est détournée et de l'immigration, ça permet de reprendre globalement le système tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est montrer qu'effectivement, il y a des résistances donc à ce système qu'on essaie de bien montrer dans son pendant, donc on va dire qui descend des activités de survie, c'est-à-dire les relations franco-africaines, la question du franc CFA, la question des accords militaires de défense, la question des accords ACPUE et la question en France par exemple pour survie du non-contrôle absolu de certaines institutions, pour pas nommer le président de la République, sur toutes ces questions-là, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment des pratiques différentes, c'est des moyens d'action différents, mais on essaie de regrouper tout ça en disant, écoutez, si nous, on n'en débat pas tous à l'intérieur de nos structures et, à un moment donné, plus fédérativement, cette question-là n'évoluera pas. Donc, essayons d'aborder, en ayant un maximum d'éléments, la question des relations franco-africaines à l'aune du système mondialisé actuel, quoi, on va dire, puisque l'un va pas sans l'autre. Donc là, si véritablement il y a une évolution qui est en train de se produire par rapport aux questions qu'avait soulevé Survie, c'est la question d'un passage d'un État qui fait sa politique, qui impose une politique directement à d'autres États qui sont censés être indépendants, au passage à des multinationales qui vont effectivement piller les économies du Sud avec le plus grand assentissement des institutions financières internationales et donc rétroactivement de leurs États. Donc la question française là-dedans, elle est cruciale, quoi, parce que tout simplement, il y a une grande partie déjà des dettes africaines qui sont odieuses, puisque c'était des prêts aux dictateurs. Il y a une deuxième partie qui est comment exiger, alors qu'on en entend parler justement, cette fatalité, qu'on voit systématiquement qu'il y a des exemples de famine, de guerre, de problèmes de sécheresse, des criquets, etc. Et on vient encore leur demander de rembourser d'abord. comment je veux dire, c'est un discours qu'il faut casser à ce niveau-là aussi. C'est les grands cadeaux des anciens colons par le cadre des accords de libre-échange Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne. Le franc CFA qui vient en plus mettre. On contrôle directement monétairement 14 pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et puis les Comores. Toutes ces questions-là sont à chaque fois en fait diluées alors qu'elles sont en fond dans toute lutte, y compris quand elle peut être syndicale. Puisque si on regarde le dernier exemple qu'on a en date, et je vais en parler parce que parce qu'on va en parler. Donc il s'agit du Mali. Donc on a des mines d'or qui sont exploitées au Mali. Derrière la Somadex, qui est la société malienne d'exploitation, on retrouve Bouygues, qui donc exploite pour des sociétés sud-africaines et les Thémaliens une mine d'or, donc dans la région de Kayes au Mali. Pardon. Donc le deal, c'était quoi avec l'État malien? 3 ans d'exonération totale, donc c'est-à-dire pas de charges, pas de taxes au niveau de la production, mais une exploitation qui devait durer 10 ans, non, sur 11 ans, pardon, avec 120 tonnes de minerais sur le site, et au bout de 3 ans, même pas 3 ans, la production a déjà atteint 83 tonnes. Donc, on s'aperçoit que assez vite, l'État malien ne va pas toucher grand-chose, donc par conséquent, la population malienne, du pillage de ces sols. Et en fait, les grévistes, il y a eu une grève donc massive. Des grévistes ont été licenciés directement dans le feu de l'action, et d'autres ont continué. Ils se sont organisés, et aujourd'hui, il y en a 9 qui sont en prison depuis donc 9 mois maintenant. Parce qu'on les accuserait donc d'avoir incendié des camions de la société, chose qui a été maintes fois balayée par les tribunaux maliens. Et donc on se demande pourquoi, tout simplement, il n'y a pas une décision de l'État malien de les libérer. Mais parce que derrière, il y a des pressions terribles de la part d'une entreprise française qui s'appelle Bouygues, qui, en France, embauche sans problème des gens sur ces chantiers. Enfin, vous voyez de qui je veux parler, hein, des sans-papiers, hein, soyons clairs. Il y a plein de sans-papiers. Moi, je suis aussi militant dans les collectifs sans-papiers. Il y a des sans-papiers qui retournent au pays avec une jambe en moins au bout de 2 ans. Et on n'a pas trop fait de bruit pendant les premières années. Et puis après, on l'a expulsé. Donc ça, c'est des exemples de ce qui se passe au niveau de ce que cette mondialisation, des effets de cette libéralisation de l'économie, notamment via le biais de l'endettement financier. Et
on reviendra en fin d'émission sur la
dette. On y reviendra, mais sur les questions de droit au respect du droit du travail, on s'aperçoit que c'est une boîte française qui a sûrement des problèmes avec des syndicats, puisque les syndicats sont autorisés en France encore, mais là-bas, qui a des moyens terribles pour réprimer un mouvement de protestation, une grève. Donc, et pourtant, le Mali est une démocratie.
Oui, mais justement, pour rester sur le Mali, c'est un pays qui a accueilli récemment plusieurs contre-sommets au Forum des peuples. Oui. Et précisément, quoi, pour parler des luttes concrètes qui se passent. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? C'est d'ailleurs l'objet du dernier dossier de la revue Afrique 21.
Voilà. En fait, il y a eu plusieurs forums qui ont eu lieu au Mali et qui sont en fait le Forum des peuples. Alors ça, c'était une troisième édition cette année, enfin l'année dernière, oui, cette année. Et donc le but était véritablement de discuter des relations franco-africaines, par le biais d'une mise à plat en fait de ces relations d'État à État, d'associations de la société civile aux autres associations de la société civile, en mettant à plat les relations qu'il y avait. De voir qu'est-ce qui bloquait pour qu'il y ait des relations un peu plus juste et on dira équitable. Là, vraiment, bon, bah, mise en accusation de l'État français, quoi. Ça, c'était clair. Il y avait vraiment une grande révolte dans la parole des Maliens. Et donc la jeunesse au Mali, alors la jeunesse, c'est quelque chose même en France de quelque chose d'extrêmement vague. Mais bon, il y a une jeunesse qui est tout à fait consciente de ces problèmes et qui le dit beaucoup plus crûment que on pourra jamais l'entendre dans les comités de rédaction en France, parce que il s'agit d'une vaste escroquerie, il s'agit du cas de l'implication dans le génocide rwandais de l'armée française, il s'agit de colonialisme, hein, de notre impérialisme français, il faut être clair. Alors que on est parfois prompt à aller gueuler sur l'impérialisme américain, mais nous on a une vraie politique impérialiste aussi. Avec un accord évidemment au niveau de l'ONU, hein, y a pas de problème. Mais d'une part, on est bloqué par le fait qu'il n'y a pas d'informations ici qui sortent, qui arrivent à sortir véritablement, qu'il n'y a pas de prise de conscience dans la majorité de la population de ces faits-là. Et du fait que on est dans une période où il y a une forte réaction, surtout plein de sujets dont on entend parler aujourd'hui. Enfin, je veux dire, je parle de l'immigration là aujourd'hui même, quoi, mais. Ça peut être la Sécu avant, le CPE, la précarité dans le travail, etc. En fait, ce système qui se manifeste par la précarité au nord et une misère au sud, il est grandement effectivement facilité par les moyens qui sont mis en place pour exercer cette domination de la France et donc aujourd'hui de l'Europe sur le continent africain. Et donc je les ai cités, hein, ces moyens, c'est l'économie, c'est le militaire, puisque bon, on l'a vu au Tchad, les élections peuvent être truquées maintenant, on le sait très bien, tout le monde sait qu'elles sont truquées. Bon bah ça passe quand même, quoi. Ça veut dire que là encore, on ne vient pas demander à la population tchadienne ce qu'elle en pense, alors que si on suit un petit peu l'actualité, on sait très bien qu'elle a fait des propositions très très cohérentes pour mener à une réelle solution qui tendait vers la paix civile et la satisfaction des besoins globaux de la population. Donc ça, on n'en entend pas parler. On entend parler du fait que l'armée française ait peut-être fait un tir de semonce, que le pétrole coule encore et que la Banque mondiale ne veut pas se froisser non plus trop.
Si, on entend en parler que sur FPP, en fait. La semaine dernière, on a fait l'émission là-dessus. Et donc, pour avoir une vraie information sur ce qui se passe au Tchad, réécoutez l'émission en ligne. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose ?
Tu évoquais le Rwanda, qui est un peu un point de fixation, et justement, j'imagine qu'une revue comme la vôtre aide un petit peu, ou souhaiterait aider à sortir du brouillard. On a vu toute la difficulté qu'il y avait à avoir une information crédible durant le génocide. Et puis surtout, je voudrais voir comment vous abordez ça. Aujourd'hui, on voit la multiplication des thèses négationnistes sur le génocide, puisqu'on commence de plus en plus à parler des génocides, comme s'il y avait eu plusieurs génocides durant le Rwanda, avec des acteurs politiques français relativement importants qui tentent de dédouaner à tout prix le rôle de la France. Alors peut-être, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur qui mène cette offensive, qui sont ces gens, sur quoi ils reposent leur travail, et comment vous abordez, vous, cette question du génocide rwandais.
Je vais essayer de répondre, j'espère être le plus précis possible. Sur le cas rwandais, l'implication a été véritablement... contrecarré, on va dire, parce qu'il y a eu, à mon avis, une grande inquiétude de la part de certains milieux qu'on pourrait qualifier les milieux d'extrême droite, les milieux de l'armée, les milieux institutionnels racistes, quoi. Enfin, je veux dire, de cette bonne vieille France de Voltaire. Où une implication de l'armée française, de l'État français dans un génocide au XXe siècle, était quand même un petit peu gênant, hein, parce que quand même il s'agit voilà du pays des droits de l'homme. Alors il faut absolument en finir avec cette idée que l'armée n'est pas impliquée, enfin est impliquée dans le génocide au Rwanda. Et ben on met les moyens, on paye des gens. Alors quelqu'un qui est payant, bah pour moi, la seule question que je me pose, c'est combien il a été payé. Et puis voilà, c'est tout. Combien il a reçu, parce que ça doit se monnayer une réputation. Et la sienne, c'était pas rien. Donc il l'a fait. Et voilà, il a dû se faire un bon pactole. Mais bref, c'est vraiment des commandes qui sont là, qui sont depuis très très longtemps. On va dire au fait de ce qui se passe sur cette question de l'implication de la France dans le génocide rwandais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au tribunal, carrément au tribunal pénal international, qu'on peut retrouver des révisionnistes. Et ce sont bien souvent des militaires de carrière, ou en tout cas des conseillers, des anciens officiers de réserve. Enfin bon, voilà, tous ces gens-là, quoi. Donc plus évidemment tous ceux qui ont donné les ordres. Hein, et tous ceux qui s'en sont mis plein les poches aussi. On a intérêt à pas en parler trop. Ça, on est dans une bataille idéologique, là, parce que là, les moyens, ils ont dépassé de loin les moyens d'action d'une association comme Survie. Là, si tout le monde s'y met, c'est évident que c'est parce qu'il y a vraiment une réelle frayeur par rapport au fait que ce soit étalé en place publique, alors que bon... si on passe la frontière, on va en Belgique et tout, bah il y a des gens qui sont bien plus au courant que la plupart des gens en France de l'implication de la France dans tout. Il suffit de lire Le Soir, quoi, je veux dire, et voilà, quoi, l'État français ne fait pas de procès Au Soir, quoi, en Belgique.
Mais il y a eu une vraie capacité en Belgique à assumer son rôle, enfin bien plus grande qu'en France en tout cas, à assumer son rôle, et une indépendance de la presse bien plus affirmée. C'est quant
que,
à l'information,
c'est que les Belges ils sont pas impliqués, les Belges ils ont, sur le génocide rwandais, ils sont pas impliqués, ils ont même eu, on va dire, 9 morts dans leur rang. Et mais bon, ça veut pas dire que sur les expériences du Congo belge, ils ont pas fait plus que la France en Belgique, quoi, là-dessus. La question aujourd'hui, c'est la perpétuation de ce système-là, qui est un système colonial, avec des nouveaux outils, ce que j'ai dit, hein, la monnaie, le commerce, les accords militaires de défense, etc. Et ces fameuses relations qui sont ce qu'on a appelé la France-Afrique, qui deviennent de plus en plus la mafia-Afrique. Et cet ensemble fait que dans les pays africains, il n'y a pas encore aujourd'hui de dirigeant qui ait décidé de prendre le taureau par les cornes et de dire ça peut plus durer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on les corrompt, quoi. Je veux dire, on les maîtrise parce que.
T'as pas fini ta phrase.
On les maîtrise parce que on a tous les leviers budgétaires en fait pour les contrôler. Donc ils ont pas intérêt, et quand il y en a un qui vraiment veut faire quelque chose, bon, on l'exécute ou on le fait disparaître. Alors la question de cet impérialisme, néocolonialisme, il est central dans la revue, quoi, parce que effectivement on l'a fait en France, quoi.
Mais justement, ce combat idéologique dont tu parlais, il s'est clairement manifesté avec l'apparition à quelques mois d'écart assez récemment du bouquin Négrologie de Stephen Smith. Stephen Smith, qui est donc responsable du service Afrique au monde. Mm-hmm. Et donc un peu plus tard, l'apparition en réaction à ça de Négrophobie de François-Xavier Verschave, avec deux collaborateurs, ouais. Je crois aussi.
Il y avait Odile Bihidi et je sais plus comment. Enfin bon, bref. Oui, ça c'est ça se fait partie de l'idéologie. Je veux dire, faut reprendre. Faut voir un peu l'histoire rapidement, quoi. Je veux dire, 1492, découverte de l'Amérique, des masses d'or à amasser, et puis après, bon, on a besoin de main d'œuvre, donc on prend d'abord des Indiens, et puis c'est des hommes finalement. Alors on va prendre des Noirs. On les emmène dans les colonies, dans les plantations. Là, on rapatrie encore l'or. L'or domine jusqu'en 1973. À un moment donné, on décide de plus avoir de convertibilité en or. Les masses financières deviennent très... Enfin, elles contrôlent l'économie mondiale. Et ben voilà, c'est la même... L'Afrique, elle est dans un système qui où c'est juste le réservoir, le grenier à blé, la réserve à minéraux et tout ça. Il n'y a jamais eu aucune considération pour et surtout aucune envie que des États africains indépendants réellement se développent. Donc c'est lié au fait effectivement que au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, il y a eu une construction du racisme aussi pour diviser les gens. Et ça, c'est toujours ce qui est prégnant aujourd'hui dans la vision qu'on a par rapport à l'Afrique. Et c'est très illustratif de prendre un livre d'histoire aujourd'hui, un livre d'histoire de la République. Il n'enseigne pas certaines choses, il en enseigne d'autres. Il y avait même une volonté de faire passer une loi montrant le rôle positif de la colonisation dans les manuels scolaires en 2005. Donc c'est vraiment un racisme d'État. Donc voilà, là... Je pense qu'effectivement, derrière, il y a ça. Et c'est le verrou idéologique qui fait qu'on a toujours envie de voir les Africains comme des grands enfants. Et ça renvoie à toutes sortes de préjugés, de fantasmes qui sont à la base même des relations d'aujourd'hui, quoi.
Plus jamais ça. On a déconné. On ne veut plus voir ça. Oh là là. beaucoup de bruit ce soir, c'est parce que tout près d'ici, il y a une institution qui est cachée au sein de Bercy, qui s'appelle le Club de Paris. Et cette institution, elle fonctionne comme un club qui est très fermé, qui ne rend compte à absolument personne en toute violation des règles démocratiques minimales. Le Club de Paris gère les conditions de vie pour des milliards d'êtres humains sur Terre. Il impose des mesures économiques qui ravagent des populations et des continents entiers. Il répand la misère. Et pourtant, il est là, au cœur de Bercy, en France, à Paris. Et nous payons certainement les locaux dans lesquels ils sont hébergés. C'est un vrai problème qu'on veut soulever, qu'on veut mettre au cœur du débat public. Le Club de Paris se réunit depuis 50 ans aujourd'hui. Il est passé pour la première fois le 16 mai 1956, un pays qui s'appelle l'Argentine. Et l'Argentine est toujours aujourd'hui dans un cycle de crise absolument catastrophique avec tant d'autres pays. Plus de 400 pays sont passés devant le Club de Paris en 50 ans. Plus de 500 milliards de dollars de dettes ont été rééchelonnés. Mais qui le sait en France ? Certainement moins de 0,5% de la population. Ça, c'est une véritable violation de la démocratie. Il est normal que les contribuables français, il est normal que les citoyens français, il est normal que tous les citoyens du monde soient préoccupés par ce qui se passe au sein du Club de Paris. Nous, au CDTM, on estime que cet anniversaire doit être le dernier. 50 ans, ça fait 50 ans que ça dure, mais 50 ans, ça suffit largement. Aujourd'hui, les décisions qui concernent les pays du Sud, elles ne doivent pas être prises à Bercy. Elles doivent être prises par les populations du Sud, pour le Sud. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, les décisions sont prises à Washington, à Londres, à Berlin, à Tokyo et à Paris. Et à Paris, c'est à quelques mètres d'ici, à des gens qui ne rendent aucun compte. Ils sont incapables de publier l'agenda des pays qui passent devant le Club de Paris, à l'avance. C'est-à-dire qu'on est, nous, on ne peut avoir aucun contrôle sur leur action en anticipant ce qui va se passer. On a déjà demandé officiellement au Club de Paris de publier cet agenda. La réponse a été négative. Le Club de Paris ne donne absolument aucune teneur des discussions internes. On a seulement les décisions finales. On ne sait pas quel pays a défendu quelle position avant d'arriver à cet accord. On ne peut absolument pas faire pression sur les gouvernements des pays concernés, des 19 pays membres du Club de Paris, pour essayer de les pousser dans un sens qui nous serait, qu'on juge en tout cas pour nous, favorable. Le Club de Paris refuse qu'il y ait des observateurs qui soient membres des organisations de solidarité internationale ou qu'ils soient membres des parlements du Nord et du Sud. On a demandé officiellement, j'ai participé à un débat avec le vice-président du Club de Paris en mars, je lui ai demandé qu'il y ait des observateurs extérieurs, la réponse a été négative. Le Club de Paris, c'est une anomalie institutionnelle. Le Club de Paris, il n'existe pas. Tout cela pour n'avoir aucune responsabilité. C'est-à-dire que ce Club de Paris nous dit, on est juste l'émanation d'un certain nombre de pays, mais ce n'est pas nous qui imposons quoi que ce soit. On se contente de recommander des décisions. Et les pays qu'on contacte ensuite nous disent, nous on se contente d'appliquer les décisions qui sont prises en Club de Paris, d'après un principe qui s'appelle le principe de la solidarité entre eux. Le rituel, il est bien rodé. Les pays sont autour de la table par ordre alphabétique. Le président du Club de Paris ouvre la séance. C'est en général le directeur du Trésor. Ça se passe dans une salle de réunion, ici à quelques mètres. Et le ministre des Finances du pays surendetté qui veut avoir une réduction de sa dette, eh bien, présente en quelques mots les raisons de sa présence. Les raisons sont très simples. Il ne peut pas continuer à rembourser tout ce qu'on lui demande. On lui impose d'avoir déjà signé un accord avec le Fonds monétaire international, c'est-à-dire d'appliquer des mesures fondamentalement favorables aux créanciers et pas du tout aux populations de ce pays. Le but est de trouver les ressources pour le remboursement de la dette. Et puis ensuite, il y a le jeu des questions-réponses. Et ça s'appelle une session de négociation, alors qu'à la fin, on demande aux pays du Sud de sortir, et c'est juste une négociation entre les pays riches pour savoir à quelle sauce ils vont manger le représentant du Sud, qui n'a absolument aucune marge de manœuvre, qui n'a aucun moyen de faire valoir efficacement son point de vue. Et ensuite, devant les médias, bien sûr, il se réjouit de l'accord, parce que voulez-vous qu'il fasse d'autre ?
On veut rompre avec cette institution-là. C'est un complot du Club de Paris. Donc on veut rompre avec cette institution. 50 ans, ça suffit largement. On veut que cet anniversaire soit le dernier. Le Club de Paris a fait la preuve qu'il est incapable d'appliquer les recommandations démocratiques qu'on exige de sa part. La seule issue
quand on impose un minimum de démocratie à une institution qui refuse de la mettre en pratique, c'est de demander sa suppression pure et simple. Donc nous demandons solennellement aujourd'hui la suppression absolue et définitive du Club de Paris. Voilà la raison de notre présence. Merci.
Voilà, c'était Damien Millet qui est président, je crois bien, du club du CDTM France. Président, c'est bien ça, ou porte-parole, on va dire. Et c'était donc hier, rassemblement devant Bercy. Alors voilà, il y a des problèmes de mégaphone, je suis désolé pour le son. Et donc c'était pour réclamer simplement, purement, la suppression du club de Paris, donc dont Damien vient de parler. Alors si je parle du CADTM, donc du comité pour la notion de la dette du tiers-monde, c'est parce que le CADTM, on en a parlé en début d'émission, et fait partie du comité éditorial d'Afrique 21. Et Afrique 21, on en parle ce soir avec Renaud. On va terminer sur les différents thèmes qui sont développés dans Afrique 21, et notamment les thèmes de la dette. Et pour faire un peu un lien avec l'émission de la semaine dernière sur le Tchad, où une partie de l'émission est consacrée aux politiques de plan d'ajustement structurel, est-ce qu'on peut revenir dessus, qui fait partie intégrante de la problématique de la dette?
Oui, alors on va s'intéresser au cas africain particulièrement. Effectivement, les politiques qui sont menées en Afrique relèvent des plans d'ajustement structurel, c'est-à-dire du consensus de Washington, qui vise à, pour aller vite, faire disparaître l'État, quoi. Moins il y a d'État, mieux c'est. Sauf quand même peut-être pour récolter les impôts.
Parce que... Mais on fait la santé, on fait l'éducation et
voilà.
On fait tout le reste.
Donc on a les secteurs sociaux voient leur budget fondre, on arrête les subventions aux produits de base, il y a des politiques d'austérité budgétaire qui sont menées, donc on a une politique au niveau monétaire qui est dévaluée, notamment, on l'a bien vu en 94, les effets qu'ont eu la dévaluation sur le franc CFA. Donc, en finir avec tout ce qui est subvention des produits de base à l'achat pour le petit consommateur. Par contre, là, on instaure une nouvelle taxe, une taxe sur la valeur ajoutée. On va augmenter les droits scolaires, évidemment, on va augmenter les droits de santé, on va faire en sorte que les taxes qui peuvent être touchées par l'État sur des denrées qui rentrent et qui sont par ailleurs bien souvent hyper subventionnées puisqu'elles viennent du Nord, soient abandonnées. Ça va être toutes ces séries de mesures, donc des privatisations également, pour bien partager le gâteau, et qui vont aboutir en fait à une déliquescence totale de l'État dans les pays du Sud, avec juste les fonctions régaliennes, on va dire, hein, c'est-à-dire collecter des impôts pour payer la police et la justice. Et l'armée, accessoirement, parce que des fois, on a besoin d'une armée quand la police ne suffit plus. Bref, les politiques d'ajustement structurel, c'est un petit peu, en fait, l'Europe de Maastricht. Là, je fais pas de la provocation, puisque c'est un plan d'ajustement structurel, l'Europe de Maastricht, à la seule différence que nous l'avons voté. Mais c'est le même genre de plan, c'est le même genre de plan qui est imposé au Sud comme au Nord, c'est-à-dire plus d'État, plus de régulation sociale par une institution qui serait représentative de chaque individu, mais le libre marché total, donc avec tous les argusies du système libéral, c'est-à-dire concurrence libre et parfaite et non faussée, etc., information des acteurs. Bon, on sait très bien, depuis que ça a été mis en place depuis 25 ans par le Fonds monétaire international, que ça a foiré systématiquement, que leurs prévisions sont bien souvent hyper optimistes. Par exemple, là, si je commençais à dire les chiffres du FMI concernant la croissance mondiale pour l'année 2005-2006 ou 2006-2007, je pourrais dire 10-15-20% sans avoir l'air d'un rigolo. Mais là, vous ne me croyez pas, absolument pas, parce que je suis juste dans une petite association. Donc bref, voilà, ils font leurs analyses n'importe comment. Ils n'ont absolument pas envie de changer les choses parce que ça sert trop leurs intérêts, qui sont effectivement de passer tout ce qui est tous les profits dans leur poche et puis les pertes, de les socialiser, de nous les faire payer à nous. Et je reviendrai aussi sur le fait que on pourrait aussi dire que les contribuables français eux-mêmes payent les échecs de ces politiques, puisque quand une multinationale va investir, je sais pas, au Mali ou ailleurs, qu'elle est française, eh bien, elle est assurée par l'État français, par le Trésor, via la COFAS, l'Agence de Crédit à l'Exportation. et qui fait que bah, si l'État malien ou le peuple malien, parce qu'il est trop dans la misère, ne peut pas rembourser, bah, c'est nous, contribuables français, qui payons. Donc c'est il faut bien comprendre que là, ça va vraiment dans un seul sens, hein, aussi bien au nord qu'au sud, finalement. On a les mêmes politiques, seulement il faut savoir que nous, on a des acquis sociaux, et c'est ce qui fait la différence majeure avec les pays du Sud. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas cette misère, mais cette précarité qui se manifeste de façon quand même très, très crue dans bien des cas, en France y compris. Donc c'est vraiment le même système qui est à l'œuvre. On a des acquis sociaux qui nous font gagner quelques années, dizaines d'années de sursis, mais c'est tout, quoi. Eux, là-bas, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine, il leur reste tout à obtenir.
Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste très très peu de temps, est-ce que tu peux nous faire un peu dresser un tableau rapide des différents thèmes, les différentes campagnes qui ont été abordées dans Afrique 21 et différentes campagnes alors, soutenues par Afrique 21 Pour la dette, on pourra en reparler. Il y a des émissions que vous pouvez réécouter en ligne aussi. Il y a des questions africaines qui ont été déjà développées, des émissions avec survie. Donc voilà, ça c'est pour que tu parles pas de ça. Maintenant, le reste.
Bah en fait, il y a des campagnes qui se portent à tout niveau, aussi bien parce que une association partenaire d'une autre association membre du comité directorial va nous proposer une action, que ce soit ponctuelle ou sur le moyen terme ou le long terme. On peut avoir des financements de d'initiatives qui sont portées par des associations partenaires. Il peut y avoir effectivement toutes les campagnes qui sont propres et sur lesquelles propres aux associations qui sont parties du comité éditorial et qui donc peuvent porter sur les campagnes sur les génériques pour tout le monde, les campagnes contre la banalisation des crimes contre l'humanité et du génocide, des campagnes pour l'annulation de la dette, des campagnes pour les ouvrières des Gaciliennes d'Yves Rocher qui ont gagné donc il y a maintenant 3 mois, et puis sur les ouvriers grévistes qui sont en prison au Mali. Et on espère que tout le monde s'y mettra pour gagner. Il suffit d'aller sur un site, hein, www.soutienmorila.info. Voilà, vous pouvez...
Et d'accord. Donc ça c'est. Et ben et pour soutenir aussi Afrique 21, donc on vous recommande de vous abonner. C'est pas très très cher. Par contre, c'est difficile à trouver. En plus, c'est difficile à trouver. Donc ça fait 2 raisons pour s'abonner.
Alors manifestement, vous avez un site Afrique 21.
Oui, un site.
Donc www.afrique21. 2 et 1.org, où on peut vous joindre. Et puis si on veut s'abonner, je vois dans une de vos revues il y a un bulletin d'abonnement à renvoyer à Afrique 21 chez la CNT, 33 rue des Vignoles, 75020 Paris. Et alors vous proposez 4 numéros, donc 1 an, 4 numéros, 15 euros. Vous expliquez que c'est plus cher en fait de s'abonner que de l'acheter au numéro, mais ça permet que tout le monde paye la même chose pour pouvoir envoyer des abonnements en Afrique ouais. Au même prix que ceux qui l'achètent
voilà.
Ici.
Voilà, exactement. Ouais. C'est une question de solidarité très concrète. Le mieux, c'est effectivement le site web avec toutes les infos pour la commande ou pour l'achat au numéro. Ensuite, effectivement, tu viens de donner l'adresse et vous pouvez contacter aussi toutes les associations membres et leur demander... des numéros, ils en ont. Voilà, donc on est intéressé par toute contribution sur ces questions qu'on a pu développer. Voilà, merci.
Ok, donc voilà, donc c'était Renaud d'Afrique 21, la revue des alternatives africaines.
Ouais, moi je voulais préciser que sur le site de Fréquence Paris Pluriel, il y a les 18 émissions sur la commission d'enquête citoyenne sur le Rwanda. Il y a donc 18 fois une heure qui sont disponibles librement sur le site de Fréquence Paris Pluriel. Vous naviguez un peu sur le site et vous pourrez réécouter quasiment l'intégralité de cette commission d'enquête citoyenne qui tentait de faire le point de l'implication de la France dans le génocide.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, quand on est à du monde, on fait de l'ouvrage. Alors ce soir, un micro dans la bouche, un doigt sur la gâchette. On avait les mousquetaires de l'anticolonialisme avec Juliette, Alex, Guillaume et Jérémy. Et puis tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui réalisent l'émission. Lui, il était derrière la vitre et il réalisait l'émission, c'était Fred. Alors la semaine prochaine... ça va être la grosse rigolade en perspective, puisqu'on parlera du rôle positif de la colonisation en Tchétchénie. D'ici là, vous pouvez nous rester en contact, puisqu'il y a le site des Oreilles Loin du Front, loldf.free.fr, loldf.free.fr, avec toutes les archives des émissions précédentes et oui, des chroniques.
Et il y a mieux encore, puisque depuis une semaine, vous pouvez même vous abonner à la newsletter et recevoir le sujet du soir, ce qui nous arrange en tout cas.
Voilà, on vous abandonne dans les bras de Claudie et Claudia pour les Échos du Capricorne. Bonne semaine, à bientôt, ciao.